Vous écoutez On lit pour vous.
Une littérature autochtone engagée pour parer au déracinement identitaire. Un texte de Rose Lynn Daou-Messier, paru le 15 mai 2024 dans Le Voyageur de Sudbury. C'est avec doigté que l'animatrice Joanne Melançon a débuté la causerie Thé et texte, une littérature autochtone souveraine et engagée, qui s'est tenue le vendredi 10 mai au Salon du livre du Grand Sudbury. Madame Melançon a su mettre la table devant un public affamé d'apprendre davantage sur la place que la littérature autochtone occupe dans l'univers littéraire contemporain. Après avoir invité les spectateurs à se servir une bonne tasse de thé du Labrador, c'est à tour de rôle qu'elle nous présente ses invités. Isabella Huberman, Moira Ouachtechkun Bacon, Natacha Canapé-Fontaine et Connor Lafortune. Joanne Melançon demande aux auteurs-autrices invités de nous exposer leur vision sur la souveraineté de la littérature autochtone. C'est à Moira Ouachtechkun Bacon de briser la glace. Cette autrice de romans jeunesse, qui nous vient de Montréal, fait partie de la nation des Innus de Mashteuyacht, au lac Saint-Jean. Elle illustre dans ses récits la réalité chez les jeunes autochtones qui vivent un déracinement en arrivant en ville pour continuer leurs études. Être loin des siens et les défis d'intégration dans l'environnement des grandes villes, ayant des codes totalement différents de ceux de leur terre natale, ne sont que quelques enjeux que vivent bon nombre de jeunes des premiers peuples vivant dans les régions éloignées du Québec et d'ailleurs. Elle croit que la littérature autochtone émergente se doit d'illustrer ces enjeux. Le deuil culturel comme source d'inspiration. C'est au tour de Connor Lafortune, qui est originaire de la Première Nation d'Okis, sur le territoire du traité Robinson-Huron de 1850, dans le nord-est de l'Ontario, de partager sa vision. Il est Anishinaabe, queer et francophone. Sa vision est inspirée du deuil culturel vécu par les effets de la colonisation sur sa famille, ainsi que l'annonce de la découverte des sépultures d'enfants sur les terrains des pensionnats. Il s'engage dans un processus de guérison afin de faire vivre l'histoire d'un point de vue autochtone à travers le conte narratif, la performance artistique et le chant. Selon Connor, on doit changer les liens de violence qu'on propage. Quant à Natacha Canapé-Fontaine, écrivaine, poète et artiste interdisciplinaire Innu, originaire de la communauté de Pessamit, de la côte nord du Québec, elle vit présentement à Tiotiake, Montréal. Pour elle, son processus d'écrivaine est une exploration des styles d'écriture. Tantôt, elle fait de la poésie, tantôt des essais et des romans épistolaires. Tout récemment, en octobre 2023, elle a publié « Kanatuut, la chasseresse », des nouvelles basées sur les légendes traditionnelles de son peuple. Elle croit fermement que la littérature autochtone est souveraine dans la façon dont celle-ci est circulaire et non linéaire, qu'elle rend visible ce qui est invisible. Son rôle est d'être témoin du présent, faire le pont entre le passé et le futur. Elle nous invite à découvrir les clés cachées dans ses livres, comme celle se trouvant dans les récits traditionnels. C'est pour elle une démarche souveraine. L'écriture comme outil de transformation sociale. Isabella Huberman, pour sa part, nous vient de la Colombie-Britannique. En tant que professeur en littérature à l'Université de la Colombie-Britannique, UBC, ses recherches se spécialisent en littérature autochtone dans un contexte québécois. Elle soutient que c'est dans le code culturel que la littérature autochtone trouve sa souveraineté et que c'est en ce sens qu'elle est originale en Amérique du Nord. Elle nous partage un concept visuel, concevoir la littérature autochtone comme étant le tronc d'un arbre et que de ce tronc ont poussé les autres branches littéraires du continent américain. On aborde ensuite le thème que la littérature autochtone est une littérature engagée. Elle est un outil de rééducation avec un potentiel de transformation sociale. Une porte d'entrée pour changer les perceptions, selon Isabella Huberman. Pour Moira Ouachtechkun Bacon, ces livres peuvent servir comme outil d'intégration des jeunes autochtones dans leur transition scolaire en milieu urbain, mais peuvent aussi aider les non-autochtones à mieux comprendre leur réalité. Pour Natacha, son engagement est de faire l'éducation sociale auprès de ceux-ci, qui forment la majorité de son lectorat. Elle est consciente du legs qu'elle laissera à la prochaine génération et sa vision est de pouvoir écrire seulement pour les Autochtones. La littérature engagée peut aussi être dérangeante, car elle est le miroir de la réalité de la décolonialité vécue par les Autochtones. Elle doit servir au changement de perspective, selon Connor Lafortune. La causerie fut commanditée par le Centre de santé communautaire du Grand Sudbury. C'était une littérature autochtone engagée pour parer au déracinement identitaire. Un texte de Rose Lynn Daou Messier, paru le 15 mai 2024 dans Le Voyageur de Sudbury.
Entrevue avec Patrick Martin, producteur au contenu de la série In Memoriam. Une entrevue réalisée par Stephen Ross, parue le 31 mai 2024 dans le magazine Fugue. La série In Memoriam fait un malheur sur Crave depuis sa sortie en mars dernier. L'une des productions les plus populaires de l'histoire de la chaîne, le trailer psychologique québécois destiné au grand public, met en scène un triangle amoureux tordu composé de deux frères amoureux du même homme. Son producteur au contenu, Patrick Martin, revient sur son parcours et l'évolution de la visibilité accordée aux personnages LGBTQ+, à la télé. Comment as-tu réalisé que tu voulais travailler dans les arts de la scène? En regardant le film « Roméo et Juliette » avec Leonardo DiCaprio. L'intensité, la fougue et la passion de ces deux protagonistes, ça me bouleversait. Ça me donnait envie de vivre leur expérience par procuration. Cette intensité est encore visible aujourd'hui dans mes projets, notamment chez Passego et dans In Memoriam. On se souvient de toi pour ton rôle dans Watatata, un adolescent en questionnement, à une époque où on voyait peu de personnages LGBTQ+ à la télé. Comment t'es-tu senti à ce moment? J'ai adoré ce rôle, parce qu'il y avait une portée impressionnante pour le public québécois. On m'en parle encore aujourd'hui. L'une des plus belles scènes de ma vie était la scène du coming out à ma blonde. Naturellement, j'ai plongé au sein de mon expérience personnelle. C'était particulier parce qu'à l'époque, les comédiens ne disaient pas publiquement qu'ils étaient gays. Même les journalistes n'en parlaient pas, c'était tabou. Je n'ai donc pas eu la chance ou le courage de m'assumer publiquement. Je le regrette un peu, parce qu'il y avait très peu de modèles à cette époque qui disaient « Je suis gay et suis fier d'être un modèle pour les jeunes ». Ce qui est différent aujourd'hui. Oui, j'ai souvent joué des personnages qui se questionnent sur leur orientation, mais à cette époque, on ne parlait pas du spectre de l'orientation sexuelle. À la télé, on était gay ou straight. Alors même dans Ouattatata, la relation de couple avec ma copine était tellement forte du point de vue narratif et dramatique que la production m'a fait redevenir hétéro. Aujourd'hui, on voit tout un spectre de personnages et d'identités queer. Chez Passego, on tente de donner une voix à ces personnages-là. Tu œuvres aujourd'hui derrière la caméra. Comment s'est effectuée la transition? J'ai eu 10 années extraordinaires comme comédien. J'ai fait partie de séries jeunesse emballantes, dont Stan et ses stars. À un certain moment, je sentais que j'avais besoin de m'impliquer en amont. Le producteur André Monette a remarqué que je m'intéressais et que je comprenais la courbe d'évolution des personnages. Il m'a donc suggéré de faire Linis. Par la suite, j'ai été recruté par l'équipe de Passego parce qu'elle faisait beaucoup de contenu jeunesse et que j'avais ce background. En quoi consiste ton rôle pour la série In Memoriam? Je suis producteur au contenu. J'ai donc un rôle 50% créatif et 50% logistique. J'accompagne les auteurs, je brainstorm avec eux et je les aide à aller jusqu'au bout de leurs idées pour que le propos de la série soit aussi fort que possible. Du côté logistique, je m'assure que ce qu'on veut faire est possible, qu'on fait des choix judicieux pour les lieux de tournage, je gère les budgets, etc. Quelle est ta plus grande réalisation en carrière? Définitivement, les séries grand public dont Chouchou et In Memoriam. Comme comédien, j'étais bon, mais je n'étais peut-être pas le meilleur. Derrière la caméra, je pense que je suis meilleur que ce que j'étais comme acteur. Avec Passego, nous avons gravi les échelons et gagné en maîtrise de notre médium. On a vraiment travaillé fort pour mettre ces projets au monde. On crée vraiment des projets qu'on aimerait regarder. In Memoriam cartonne en ce moment sur Crave. Comment la série est-elle née? C'est une idée de Pierre-Marc Drouin développée avec Pascal Renaud-Hébert. Pierre-Marc a une maîtrise phénoménale du hook, du rythme et du thriller, et Pascal a une sensibilité extraordinaire pour les personnages. Ça a été un plaisir de travailler avec eux. Comment est arrivée l'idée d'intégrer un triangle amoureux entre 3 hommes? Nous avons toujours le désir d'aller dans les zones grises et de surprendre dans les thématiques. Nous étions particulièrement fiers à l'idée de faire accepter Abel d'intégrer un triangle amoureux toxique, incluant 2 frères amoureux du même homme, et ce, dans un thriller psychologique grand public. Ce n'est pas arrivé souvent au Québec qu'on mette de l'avant des relations complexes gays dans ce genre de série, et on tenait beaucoup à ça. Belle a rapidement vu à quel point le concept était riche et ils ont immédiatement embarqué dans le projet. Ils ont d'ailleurs souvent mentionné que les personnages des 2 frères Julien, Jean-Simon Leduc, et Mathieu, Éric Bruno, et de leur amant Andrew, Thomas-Anthony Olagide, étaient leurs préférés. Ce trio propulse à l'avant-scène un modèle très différent. Pendant longtemps, les personnages LGBTQ+, se sont transposés à l'écran dans des couples hétérosexuels et ont vécu par procuration l'histoire d'amour de personnes hétéros. Je pense que le grand public est maintenant prêt à faire la même chose à travers des personnages LGBTQ+, qui vivent des relations parfois hétéronormatives ou parfois éclatées. On voit, avec In Memoriam, que les gens ont vraiment embarqué dans ce triangle amoureux. Comment le public reçoit-il ce contenu? La série a naturellement beaucoup passionné les communautés LGBTQ+, mais elle a fait énormément réagir de façon générale également. In Memoriam est la série qui a eu le meilleur démarrage de l'histoire de Crave, et nous sommes l'émission la plus regardée au Canada chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. De plus en plus de séries présente des personnages LGBTQ+, est-ce une mode? Non. Ça ira en croissance. Je crois que nous verrons une plus grande diversité à l'écran, autant la diversité culturelle que corporelle, d'identification de genre, de classe sociale, etc. C'est ça l'avenir. Ces histoires intéressent tout le monde. On n'est plus dans une perspective où on pense que les trames narratives LGBTQ+ n'intéressent que ces communautés. Aujourd'hui, le plus grand défi, c'est la découvrabilité. Les contenus doivent sortir du lot par une prémisse qui marque les esprits ou par un angle qui se démarque. Pas seulement par des acteurs connus du grand public. Quel est l'impact de ce changement de paradigme sur le jeune public selon toi? C'est tellement important d'avoir des modèles auxquels s'identifier. C'est le cas en politique, en sport, etc. Il faut donner envie aux jeunes d'aspirer à ce succès et ce bonheur. C'est une clé pour que la jeunesse se sente bien d'être qui elle est. Est-ce que ton équipe et toi nous réservez plus de surprises prochainement? Nous avons beaucoup de projets en branle. Nous sommes une grande famille. On développe différents projets présentement et nous sommes très emballés par la suite des choses. On travaille notamment avec Simon Bouliris, Yannick Étier, Juliane Côté et Pierre-Marc Drouin, qui planchent chacun sur leur projet de série avec nous. À suivre. C'était Entrevue avec Patrick Martin, producteur au contenu de la série In Memoriam, une entrevue réalisée par Stephen Ross, parue le 31 mai 2024 dans le magazine Fugue.
Quand la GRC épiait les militants à croix gammée d'Adrien Arcan. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 18 juillet 2024 dans Le Devoir. Dans les rues de Montréal, il n'est pas rare de voir des membres du Parti national social-chrétien, PNSC, déambuler vêtus de leur uniforme bleu flanqué d'une croix gammée, observe un rapport des services de renseignement canadiens daté du 21 juin 1939. Parmi les membres du parti, il se trouve même des militaires qui osent porter leur chemise bleue à croix gammée par-dessus leur uniforme réglementaire de l'armée, note l'inspecteur Harvison. Cet agent d'infiltration de la police fédérale se fait même dire par l'un des hommes d'Arcan que l'armée ne s'oppose pas à cette pratique parce qu'elle sait très bien que plusieurs de ses officiers, chefs, appartiennent au mouvement du Führer canadien. Dans les 393 pages de documents d'archives rendus publics par le gouvernement canadien à la suite de demandes d'accès à l'information, voici le genre de détails que l'on peut lire au sujet des fascistes d'Arcan avant que celui-ci et ses principaux lieutenants ne soient arrêtés le 23 mai 1940, alors que la guerre fait rage en Europe. Le même jour, en Angleterre, le chef fasciste Oswald Mosley, ancien député, est lui aussi arrêté, comme l'est d'ailleurs le leader fasciste rhodésien Henry Hamilton B. Mitch. Ces leaders d'extrême droite ont beau clamer leur loyauté totale envers l'Empire britannique, rien n'y fait. La croix gammée dans les Laurentides. À quel corps d'idées s'attachent ces gens-là? Le 19 juin 1936, en soirée, ce sont environ 800 personnes qui sont rassemblées à Saint-Sauveur, rapporte un autre document de la Gendarmerie royale du Canada, GRC, responsable à l'époque des services de renseignement canadiens. Ils sont réunis pour entendre Arcan prendre la parole. Plus tôt en journée, 6 automobiles, dont une grosse cylindrée Packard appartenant au riche docteur Noël Descaries, ont quitté Montréal. Elles ont été suivies. À bord sont les figures clés du parti, dont le major Maurice Scott, un ancien champion de gymnastique qui fut lieutenant lors de la guerre de 1914-1918, avant d'apparaître très ventripotent dans un uniforme fasciste. À Saint-Sauveur, les choses ne se passent pas comme prévu. Au moins 1000 personnes attendent les fascistes à l'extérieur de la salle afin de protester contre leur présence, affirme le rapport de police. Que des militants antisémites se manifestent dans les Laurentides ne se fait pas sans résistance, même si on trouve placardés dans la région, comme à Sainte-Agathe en 1939, des affiches bilingues qui affirment que les Juifs ne sont pas désirés ici. Pour la GRC, ceux qui s'opposent aux militants d'Arcan appartiennent à diverses tendances. À l'en croire, ce sont des sympathisants du mouvement séparatiste, des membres et des leaders de clubs ouvriers et d'autres encore qu'elles placent dans un même sac frappé de l'étiquette « communiste ». Ce vendredi soir, la rencontre avec les chemises bleues a bel et bien lieu, malgré des échauffourées et quelques échanges de coups de pied et de coups de poing. Le climat est si tendu qu'il est impossible aux militants d'Arcan de quitter la salle avant 3 heures du matin. La lunette arrière de la voiture du major Scott est fracassée avec une barre de fer. Certains militants d'Arcan reçoivent des coups. Les fascistes ne sont pas tenus en odeur de sainteté, même s'ils se présentent comme de fidèles chrétiens. Chemise bleue et chemise noire. À Montréal, les agents de la GRC observent que les fascistes, plus que jamais conscients des barrages qui se dressent devant leurs idées, se retrouvent souvent à la Casa d'Italia, rue Jean Talon Est. Ils discutent des moyens d'en découdre avec leurs opposants. Sur place, des Italo-Canadiens favorables au fascisme arborent la chemise noire mussolinienne, tandis que les hommes en chemise bleue d'Arcan boivent, comme eux, de la bière. Les deux groupes se mélangent à l'occasion, observe la GRC. Après des débuts qui avaient pu paraître prometteurs aux observateurs en 1933, le parti d'Arcan a du mal à progresser. Gianni Gentile, qui sera incarcéré en raison de son soutien aux idées de Mussolini, offre aux militants d'Arcan de les aider à en découdre. Ces derniers comptent sur l'initiative d'un militant, Rosaire Lévesque, pour rassembler de 50 à 60 personnes qu'il connaît au sein de l'armée canadienne et sur lesquelles on peut compter pour suivre les ordres. Lévesque lorgne en particulier du côté des soldats liés au régiment de Maisonneuve, là où les troupes d'Arcan profitent au moins de l'appui d'un sergent. Le PNSC veut aussi récupérer des fiers à bras dans les rangs des services d'ordre constitués dans certaines unités paroissiales, histoire de reconvertir tout ce beau monde en une force capable de montrer les dents. Vous écoutez « Quand la GRC épiait les militants à Croix-Gammée » d'Adrien Arcan, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 18 juillet 2024 dans Le Devoir. Un des plans du groupe, explique l'agent de la GRC, est de se présenter désormais en civil plutôt qu'en uniforme nazi auprès de certains manifestants antifascistes, afin de les identifier et de leur faire connaître aussitôt un mauvais sort. Il s'agit de les rouer de coups, explique le major Scott, mais en prenant bien soin de faire croire que ce sont eux qui ont commencé. Au cours d'une assemblée subséquente où la GRC s'est aussi infiltrée, un rapport indique qu'Arcan laisse entendre que la ville de Québec se trouve à la veille de basculer du côté fasciste. En mai 1939, le PNSC attend dans la vieille capitale une foule de 10 000 personnes. Une prophétie qui, comme tant d'autres tenues par Arcan, un ancien journaliste, ne se réalise pas. À l'heure où la guerre en Europe apparaît de plus en plus certaine, les espoirs du PNSC pour relancer ses activités s'attachent à la promesse d'une visite prochaine de Henry Hamilton Beamish, un leader fasciste britannique qui a été marchand de fourrure au Québec quelques années plus tôt. Après avoir lancé un mouvement fasciste en Angleterre et avoir pris la parole avec Hitler, Beamish s'est installé en Rhodésie. Il siège comme député dans cet État ouvertement raciste. En 1936, quant à lui, Arcan a discouru en anglais devant une immense assemblée de militants d'extrême droite réunis à l'hippodrome de New York. Exilé aux États-Unis, l'écrivain Klaus Mann, farouche opposant au fascisme, écrit à l'époque que personne n'ignore rien du dangereux activisme des nazis à New York, à Chicago et dans les autres villes américaines. Le richissime constructeur automobile Henry Ford se trouve au nombre de ceux qui financent la diffusion de thèses antisémites en Amérique. Ford dépense des fortunes pour répandre ses propos corrosifs. Hitler ne fait pas pour rien l'éloge de Ford en allant jusqu'à le décorer de la Grande Croix de l'Ordre de l'Aigle. Après la guerre, dans d'autres documents caviardés de la GRC qui viennent d'être déclassifiés, il apparaît clair que les mouvements d'extrême droite continuent d'être épiés après la guerre. Dans ces rencontres, les militants se voient expliquer la course du monde à partir de thèses complotistes au fort accent antisémite, note la GRC. La haine des étrangers et des immigrants, dans l'obsession d'un complot ourdi par des forces occultes, apparaît sans cesse au menu. Au début de l'année 1970, la GRC infiltre une réunion qui se tient dans le hall de la Caisse populaire Saint-Louis de France, située sur la rue Roy à Montréal. Une centaine de personnes sont présentes à cette occasion, dont une vingtaine de femmes, parmi lesquelles le caporal Trudeau de la GRC note la présence d'Yvonne Giguère, la veuve d'Adrien Arcan. Héritier du mouvement d'Arcan, Gérard Longteau est là. Il dénonce le communisme, les idées de gauche, l'esprit de changement qui, dit-il, risque d'emporter la société traditionnelle catholique au mépris de la Bible. Cet homme autoritaire ignore encore que quatre de ses propres enfants sont engagés au sein du Front de libération du Québec. Mais les agents de la GRC sont-ils toujours bien outillés intellectuellement pour analyser les discours? En octobre 1970, pendant la crise politique qui conduit le gouvernement fédéral à suspendre les libertés civiles en promulguant la loi sur les mesures de guerre, la GRC épie à Shawinigan un certain Gérard Monnet. Cet homme sera surtout connu pour être un champion d'échecs. Entre les éléments caviardés des rapports, on peut lire que le sergent Ricard indique à ses supérieurs, comme preuve à son sens manifeste des activités subversives de Monnet, que celui-ci a acheté un livre de Che Guevara, pourtant peu connu pour être un militant d'extrême droite. Les risques de tout mélanger au chapitre des idées, au point de ne plus y voir clair, était-il suffisamment pris en compte au sein de la GRC? C'était « Quand la GRC épiait les militants à croix gammée » d'Adrien Arcan, un texte de Jean-François Nadeau, paru le 18 juillet 2024 dans Le Devoir.